Chapitre 9. Chris s'attendait à un véhicule rouillé et brinque-ballant, au coffre certainement rempli de casiers de pêche empestant la marée. Il en aurait tout de même été reconnaissant. Mais c'est au volant d'un superbe 4x4 allemand qui sent aussi bon que le hall du Covent Garden Hotel qu'il s'installe. Un véhicule qui ne correspond pas vraiment au standing apparent de ses propriétaires. La seconde surprise est le poste de CB radio, qui, dès le moteur allumé, se met à émettre des sons étranges. Des séquences de bruits d'ambiance assez conceptuelles, entrecoupées de bips. Le ressac de l'eau, du vent dans des branches, une réjouissante collection de grincements. Cela lui rappelle immédiatement le concert de musique contemporaine auquel sa mère l'avait traîné quelques années plus tôt, un calvaire. Il se garde bien toutefois de tripoter les boutons, même pour baisser le volume, de peur de dérégler l'engin. À présent qu'il est au volant, les rues de Kilthorpe lui paraissent bien plus pentues et tortueuses que lorsque Kate conduisait. En guise d'itinéraire, Emma Turnbull, la patronne de la taverne, lui avait conseillé de toujours choisir la route qui montait, arguant qu'au final, il ne pourrait pas se perdre puisqu'il n'existait qu'une seule voie pour quitter la baie. Rognard prend le temps de passer en revue les habitations, étonné de constater le nombre d'entre elles qui, au-delà de leurs atours plaisants dignes d'une série anglaise, sont équipées de caméras de surveillance. La délinquance ne doit pourtant pas être le principal problème de Kilthorpe. En remontant, il ne croise que trois personnes et un enfant gambadant avec son chien. Chacun de ces parfaits inconnus le salue d'un signe de la main. À l'évidence, il croit voir passer les gérants de l'Oak Tree Taverne. Chris répond chaque fois poliment. La sensation de mener une autre existence que la sienne s'en trouve renforcée. Tout concourt à lui faire perdre le peu de repères qu'il avait réussi à se fabriquer dans sa vie. Kilthorpe rebat les cartes. Cette propriété dont il a hérité, son accident, et le fait que, faute de réseau téléphonique, il soit privé de tout contact avec ceux qui faisaient jusque-là son monde, l'oblige à se redéfinir. La dernière maison dépassée, il attaque la section la plus ardue du trajet, une enfilade de lacets serrés. Cette route en surplomb l'avait impressionné en tant que passager, elle le met sous pression en tant que conducteur. Il ne veut à aucun prix rayer la belle voiture qu'on lui a prêtée. Chacun des virages l'amène à frôler le roc ou le vide, sur fond sonore cyclique de vagues, de branches et de grincements. De quoi désorienter le plus structuré des individus. Chris atteint le plateau avec soulagement, mais à peine est-il remis de ses émotions que l'entrée dans la forêt le fait tout à coup passer du jour à la nuit. Dans l'obscurité du bois de sapin, il repère bientôt les gyrophares de la dépanneuse. Les lueurs projetées sur les troncs alentour créent une atmosphère surnaturelle. Sa voiture a été extraite du talus et remise à l'endroit. Stationné à quelques mètres, le Land Rover vert de Kate Fairley est également sur les lieux. Décélérant pour se garer, Rognard aperçoit la jeune femme en train d'inspecter l'intérieur de son véhicule mal en point. Elle, qu'il a vue si sûre d'elle, se redresse précipitamment comme prise en faute. Dès qu'il a posé le pied par terre, elle se justifie. « Je m'assurais qu'il n'y avait pas de traces d'hémoglobine. » Ne craignez rien, l'animal à sang chaud a encore tout son stock en lui. Elle sourit, mais d'une seule faussette. Saluant de loin le dépanneur, Chris s'approche d'elle en déclarant « Je n'espérais pas vous revoir. C'est une bonne surprise. » Kate ne répond pas. Chris va trouver le garagiste en train d'accrocher un second câble pour hisser la voiture sur son plateau. « Vous pensez pouvoir la réparer rapidement ?» lance-t-il. L'homme secoue la tête en désignant le véhicule d'un geste là. Le train avant est faussé, peut-être même le châssis. Un espoir que je la récupère lundi ou mardi ? Le visage de l'homme s'éclaire d'un large sourire. La petite dame a raison, vous avez sûrement tapé la tête. Chris lève les mains. C'était une simple question. Tant pis, cela va juste m'obliger à rester quelques jours de plus. Vous êtes vivant sur vos deux jambes. Estimez-vous heureux de ne perdre que quelques jours. On fera aussi vite que possible et on vous préviendra. Vous allez rester à la taverne ? Je pense. Dites, avant de l'emmener, vous permettez que je récupère quelques effets personnels ? L'homme l'y invite d'un geste courtois. Chris fouille son véhicule au toit râpé, attrape ses chaussures de course, une casquette et quelques dossiers sans se soucier du désordre aggravé par le contenu des vide-poches répandus durant le tonneau. Kate l'observe se contorsionner et s'étirer pour atteindre ses affaires. Un trait physique lui apparaît alors, une caractéristique qui lui avait échappé jusque-là. À bien y regarder, Christopher Rognard est doté d'une belle carrure. Pourquoi ne l'a-t-elle pas remarqué avant ? Sans doute parce qu'il n'en joue pas. Là où la plupart des mâles cultivent cet avantage, quitte à en faire trop, lui n'en fait pas un atout. On peut même dire qu'il n'en tient pas compte. Comme les grands chiens peu conscients de leur taille qui se comportent comme s'ils étaient plus petits. Pourquoi ignorer cette corde à son arc? Quel autre point fort de sa personnalité a-t-il préféré favoriser en reléguant celui-là au second plan? Cet homme la déroute. Profitant de ce qu'il est occupé, Kate l'étudie. Le voir aussi désinvolte vis-à-vis de sa voiture accidentée confirme qu'il semble ne rien prendre au tragique. Soit il bénéficie d'un mental très solide, soit il est complètement inconscient. L'avenir le révélera vite. Chris se redresse alors et lance au dépanneur « C'est bon pour moi, merci ». L'homme appuie aussitôt sur le bouton de sa télécommande et le véhicule se hisse lentement sur la rampe. Tandis que Chris regarde, Kate le rejoint. « Comment vous sentez-vous ? » « Très bien, à part que j'ai passé la nuit à revivre ma cascade en boucle. J'ai vu l'écureuil traverser au moins 50 fois, chaque fois je pile, et tout part en cacahuète. » C'est fréquent après un accident. Le cerveau répète le souvenir de ce qui l'a traumatisé jusqu'à savoir où le ranger. Mon cerveau à moi paraît avoir du mal à classer l'affaire, parce qu'un élément ne colle pas. Que voulez-vous dire ? Un point que je ne parviens pas à éclaircir, un problème d'enchaînement, la farandole des causes et des effets. Un détail qui cloche ? D'abord, récapitule Chris, j'aperçois l'écureuil. Puis je donne le coup de volant. Et c'est très bizarre, mais dans mon souvenir, j'entends la vitre, côté passager, exploser avant même le début du tonneau. La violence de l'accident a peut-être altéré votre perception. C'est ce que je me dis aussi, mais mon esprit ne se calme pas pour autant. Il y revient sans cesse. Le treuil s'arrête. La voiture se stabilise sur la dépanneuse. Quelques débris de verre tombent au sol. Chris se baisse, en ramasse un du bout des doigts et interroge le garagiste qui sangle l'épave. « Vous ne trouvez pas étrange qu'une seule des vitres ait explosé alors que toutes les autres ont résisté ?» Le type hausse les épaules. « Si vous espérez trouver de la logique dans un accident, vous allez être déçu. Il n'y en a aucune. Des choses supposées tenir rompent et d'autres plus fragiles tiennent. » Kate garde le silence. Pourtant, elle sait que Chris a raison de se poser des questions. La vitre a bel et bien explosé avant qu'il ne perde le contrôle. La perforation de la balle qui a traversé le plafond au-dessus de la place du conducteur l'atteste. Le trou est heureusement difficilement repérable parmi les autres stigmates de l'accident. Christopher Rognard était à l'évidence dans la ligne de mire d'un tireur. S'il n'avait pas donné ce coup de volant inattendu, il aurait vraisemblablement reçu le projectile de beau calibre en pleine tête. Comment réagirait-il s'il l'apprenait ? Lancerait-il une petite plaisanterie ? Une pirouette et des claquettes ? Ou bien le personnage toucherait-il les limites de son ironie en s'apercevant qu'on a voulu l'assassiner ? Kate ne va pas chercher à le savoir, mais il est clair que Chris dérange. D'autant que jamais jusque-là, les précédents héritiers n'avaient été éliminés par arme à feu. Le passage à une méthode plus radicale indiquerait-il que l'assassin est sous pression ? À moins qu'il ne sache plus comment maquiller ses meurtres. Quoi qu'il en soit, Kate va se taire, et Chris restait une cible. Elle ne peut pas prendre le risque de perdre un aussi bel appât.